friand d'art. L'émission culturelle d'Alto.
Alors moi, il m'épate.
Vas-y, démarre. Mais démarre, viens, on se barre, c'est maintenant. Se libérer, s'égarer, ne plus jamais rien planifier. Vous aussi, ça vous fait vibrer? Aujourd'hui, dans Friand d'art, on va rouler. Rouler pour se libérer du quotidien et partir à la conquête de soi-même. Autoradio, gaz d'échappement, galères et grands espaces, c'est parti pour une émission autour de la musique dans les road movies. Une définition d'abord. Le road movie, film routier, est un genre cinématographique nord-américain dans lequel le fil conducteur du scénario est un périple sur les routes et à travers de vastes espaces, avec, pour moyen de locomotion, la moto, comme dans Easy Rider, ou l'automobile, comme dans Thelma et Louise. Chaque fois, il est dépeint l'errance. Parfois baigné de violence, les personnages principaux sont la plupart du temps en rupture avec leur environnement. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai la chance d'accueillir David, qui aime la route et la musique. Est-ce que, David, tu peux nous présenter un petit peu le morceau qu'on vient d'entendre?
Bien sûr, c'est un grand standard de l'album de Steppenwolf de 1968, qui est leur premier album, qui avait le même titre que le groupe, d'ailleurs, Steppenwolf. Et dans le titre, on retrouve, comme dans d'autres albums, la version de la bande originale d'Easy Rider avec le titre The Pusher, qui n'est pas le plus connu comme celui d'Easy Rider, mais forcément un morceau incontournable pour les aficionados de ce genre de road movie.
Bon, bah, c'est un bon choix que d'avoir choisi un extrait de musique d'Easy Rider, parce que moi j'avais envie de partager avec toi un petit peu l'histoire de Sur la route de Jacques Kerouac, qui est à la base un roman en fait. Et on lit souvent que c'est ce roman qui a inspiré Easy Rider, puisque Jack Kerouac, lui, ce qui lui parlait, je pense comme ça parle à beaucoup d'entre nous, c'est la notion de liberté, celle qui fait qu'on se sent libre, en totale phase avec soi-même, et qu'on n'a besoin de personne, avec ou sans Harley Davidson, et qu'on n'a pas d'autre priorité finalement que de pouvoir évoluer selon les priorités qu'on s'est soi-même fixées pour... un peu un idéal de vie, un peu sortir du cadre des fois, celui qu'on pense qui nous attend et qui nous est destiné, et de se poser la question à un moment de quel sens on a envie de donner. Des termes récurrents qui sont le fait d'être marginal, libre, contemplatif. Aussi souvent, ce qui revient dans son livre et qu'on retrouve aussi dans les road movies, c'est la richesse des gens rencontrés, ce que les personnes nous apportent. Donc
c'est ce qu'on peut garder aussi en tête sur notamment Easy Rider, qui est un peu dans le même état d'esprit, où justement c'est la rencontre de ces différentes régions, découvertes de personnalités, de personnages, de modes de vie, d'implantation. Et c'est vrai qu'on voit tout au long du film des rencontres les plus impromptues avec des personnages hauts en couleur. Et en même temps, des gens souvent casaniers qui, eux, ne découvrent pas la région avoisinante. Et justement, le lien, c'est ce road trip qui permet de découvrir différents espaces.
C'est ça. Et puis, moi, ce qui me fascine toujours, c'est des gens, les personnages. Alors, c'est vrai pour Jacques Kerouac qui écrit vraiment son propre rôle dans le livre. Mais je pense que ça l'est ici, ça l'est aussi pour Easy Rider. C'est des personnages qui peuvent paraître loin de la société, pas forcément des gens vers qui on irait, qui finalement ont beaucoup de choses à partager et qui sont proches des gens et qui prennent le temps de se poser, de découvrir comment les gens vivent et de prendre part à leur quotidien et de par la richesse du voyage aussi, de voilà, s'arrêter dans des endroits où on n'attend pas forcément...
Oui, puis le symbole qui est vraiment révélateur au début du film de Easy Rider, c'est justement le moment où ils jettent leur montre en plein désert au départ de leur road trip pour montrer que le temps n'existe plus.
C'est ça, et que c'est eux qui décident de voilà, où et comment aller... Ouais, bah, écoute, c'est exactement ça, donc c'est un beau parallèle entre les deux. Alors moi, ce que j'ai choisi aussi de faire l'émission dans ce sens-là, l'idée un peu c'est quand la musique donne le rythme à un film, parce qu'à la base, Jack Kerouac, c'est lui qui est à l'origine du mouvement beatnik, donc un mouvement culturel qui est parfois associé au mouvement hippie, mais qui est quand même très différent, puisque les hippies, c'est plutôt des revendications sociales, matérielles, le fait de vouloir vivre avec le strict nécessaire. Le mouvement beatnik est complètement différent dans le sens où c'est vraiment très axé sur la littérature, la musique, en partie ces choses-là, aussi tout ce qui tourne aussi autour de la libération, le fait de pas d'être contre les conflits armés. Ils ont beaucoup œuvré aussi pour le monde homosexuel, pour leur ouvrir la voie, donc il y a tout ce côté aussi. Mais moi, ce qui m'a fascinée chez Jack Kerouac, c'est que il a écrit tout son roman en prose, en fait. Donc c'est à l'époque, ça a été compliqué pour lui d'être édité, parce que c'est une période où les écrivains étaient encore issus beaucoup du monde littéraire. Et lui, il a écrit ce livre sur la route, sur un rouleau de papier de 120 pieds, donc ça fait à peu près 36 mètres 50 dans nos mesures à nous. Il a écrit du 2 au 22 avril 1951. Il a été publié que 5 ans plus tard, après beaucoup de réécritures et quelques censures. Ça a été édité aux éditions Viking Press en 56 exactement. Et son écriture, elle est inspirée par son amour du jazz et surtout le mouvement bebop, en fait, avec un rythme très, très rapide, un petit peu comme des battements de cœur, finalement, où voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui a inspiré son écriture comme ça. Et moi, ce qui me fascine assez, c'est de se dire qu'un livre... Enfin, un voyage a fait un récit de voyage, qui a une musicalité dans l'écriture et que finalement ça a été repêché par des scénaristes. Alors tu vas avoir le nom du scénariste d'Easy Rider que moi j'ai pas, mais je pense que tu...
Pas de tête, malheureusement. De tête. On va me jeter des pierres.
Non, mais c'est
on
pas
le trouvera
grave.
Et on l'aura
si
au
on
montage.
Le retrouve, voilà, c'est ça, exactement. Non, c'est pas. Non, Ridley Scott, non, c'est pas. C'est... Non, ben on...
Ça me reviendra pas.
Et donc voilà, c'est pour. C'est vraiment ce qui m'a séduit, voilà, c'est le fait que on parle de rythme dans l'écriture, du jazz bebop, quelque chose qui est assez qui est comme très rythmé, pour finalement, comme tu l'as dit, arriver à en jeter sa montre et à chercher un rythme de vie qui est beaucoup plus lent. Et voilà, j'aime bien ce...
Oui, en plus, ce qui nous paraît plus intéressant dans le choix de ces musiques, de toutes ces road movies, c'est justement le rythme de la musique qui colle toujours à l'image et au scénario.
C'est ça.
À un tel point qu'on a l'impression que le scénario était écrit autour de la musique, alors qu'on s'aperçoit souvent que c'est le contraire. On a choisi des musiques qui collaient au film et au scénario, mais ça colle tellement l'un dans l'autre qu'on
c'est
a l'impression
ça.
Qu'ils
Exactement.
Sont écrits les uns pour les autres.
Oui, puis après, si on veut aller au-delà et rejoindre le mouvement beatnik, où là on a le livre, le film et la musique, c'est que quand on écoute une bande originale de road movie, on a toujours plaisir à se poser, à fermer les yeux, se remémorer les images, les scènes du film auxquelles ça correspond. Et du coup, ça nous replonge vraiment dans cet univers. Et si on est tout seul dans sa voiture avec la bande-son qu'on aime, c'est encore mieux.
Ou même dans son salon, on arriverait, en fermant les yeux, à voyager et voir les images de paysages qui défilent.
Et à sentir les gaz d'échappement depuis son salon. Alors moi, j'ai choisi parce que On the Road, en fait, a été quand même adapté au cinéma très, très tardivement en 2012. Donc voilà, il s'appelle Sur la route en français et On the Road pour la version originale américaine. Donc moi, j'ai choisi de partager avec vous un morceau de Dinah Washington. C'est un morceau de 1947. Et dans cette chanson... elle raconte qu'elle n'a plus envie de se laisser embêter par personne. Donc là, c'est plutôt dans le cadre de sa vie, je pense, conjugale, tout ça. Elle décide du coup de, voilà, de prendre sa vie en main. Je trouvais que ça collait bien à l'image des personnages de Road Movie. Donc je vous propose d'écouter Mille and Every Blues.
Around with me. Yes, I'm mean and evil. 'Cause I'll mess you up quicker than a dozen sticks of TNT. First thing each morning, I breaks me a looking glass. Then I goes out on the corner, waits for a black cat to pass. Can't sleep less there's a howling dog meet my window each night. And nothing sends me like a good bloody fight. Yes, I'm mean and evil, but you know good men made me that way. Yes, I'm mean and evil, even red. Evil rain don't fall on me. And I'm gonna stay that way till I find a man that's meaner than me.
Donc on était bien plongé là dans l'esprit de la fin des années 40 sur le fameux road movie On the Road avec Mean and Evil Blues, un son authentique hein, avec le bruit du vinyle.
C'est ça, oui, oui. Mais c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce morceau, parce que je trouve que déjà dans le timbre de voix de Dinah Washington, il y a quelque chose qui accroche et de l'ordre de... Enfin, pas de la mélancolie, mais on sent qu'elle a quelque chose plus à exprimer qu'à dire. C'est vraiment de l'ordre du ressenti comme... Le blues, de toute façon, enfin, ça c'est vraiment propre à ce style musical. Et puis, moi, ce que j'aime aussi dans les road movies, même si on sait que malheureusement la fin est toujours tragique, il y a toujours des scènes lumineuses comme ça où ils sont baignés de soleil au bord d'un lac, il n'y a qu'eux et on voit ce que la nature a vraiment de plus beau à nous offrir. Et puis ils sont bien, on les sent un peu comme, je sais pas, quelqu'un qui retrouverait son enfant intérieur, ou vraiment c'est le passage du film où ils se sentent libérés de toute contrainte et ils se laissent aller au plaisir simple de la vie, à être juste eux-mêmes. Et puis ils se mettent à boire une bière, deux bières, trois bières, et puis c'est à ce moment-là qu'ils refont le monde. Et voilà, je trouvais que ce morceau pour le petit morceau de piano et tout, c'était assez simple, pas trop d'instruments. Et j'avais envie de partager avec vous Dinah Washington. Avant de finir avec Jack Kerouac, je voulais vous lire deux ou trois citations extraites justement de Sur la route pour qu'on comprenne bien sa manière d'écrire, et vraiment un peu comme de l'écriture intuitive. Les seuls gens vrais pour moi sont les fous, ceux qui sont fous d'envie de vivre. Fou d'envie de parler, d'être sauvé, fou de désir pour tout à la fois. Ceux qui ne bâillent jamais, jamais et ne disent jamais de banalité, mais qui brûlent comme des feux d'artifice extraordinaires, qui explosent comme des araignées dans les étoiles et, en leur centre, on peut voir la lueur bleue qui éclate et tout le monde fait « Waouh !» Qu'est-ce qu'on éprouve quand on s'éloigne des gens et qu'on voit leur silhouette diminuer dans la plaine ? Jusqu'à n'être plus qu'un point qui finit par se dissoudre. Le monde est trop grand. Il nous engloutit sous sa voûte et adios. J'étais à mi-chemin de la traversée de l'Amérique, sur la ligne de partage entre l'Est de ma jeunesse et l'Ouest de mon avenir. Voilà les trois citations que j'ai choisies du livre. Je trouve que... Il parle et des gens, et des points cardinaux, et un peu de comme on dit, le grand tout, en fait.
Oui, je pense que ça en dit long sur l'état d'esprit, notamment la première citation où voilà, on voit les gens s'éloigner. C'est un petit peu le, aussi souvent le cœur serré, la peur au ventre, parce que c'est le début, c'est là qu'on plaque tout et qu'on commence une aventure sans trop savoir comment ça va se passer.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on sait tout ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va trouver, qui on va rencontrer. Enfin, vraiment, voilà le fait de... Je pense le plus difficile de partir dans l'inconnu.
Voilà, et puis après l'autre citation, justement, où là, le road trip est commencé, le plaisir est apparu sur les premiers trajets, les premières découvertes de paysages. Et là, maintenant, bah, le voyage suit son cours avec tout ce qu'il y a autour, les rencontres, le décor, le cadre.
C'est ça. Et puis je pense que c'est un peu comme toujours quand on part sans trop savoir où on va. À partir du moment où ça se passe bien, bah on a plus tendance à s'émerveiller et se contenter de tout ce qui est positif. Alors que si on sait à quoi s'attendre, on peut être plus déçu que dans ce sens-là, tout ce qui n'est pas une galère devient plutôt un émerveillement, j'ai envie de dire.
Surtout qu'à l'époque, voilà, c'est des vraies découvertes. Il n'y a pas tout ce qui nous permet maintenant d'avoir des informations sur des régions qu'on ne connaît pas. Et là, c'est vraiment à chaque fois des rencontres avec des gens, des paysages, des cultures,
c'est ça.
Des religions.
La culture qui revient très... Voilà. Et puis la religion, et puis au-delà de la religion, surtout aussi souvent la spiritualité qui est vraiment présente aussi. Je pense que ça, c'est aussi lié au fait de se retrouver seul et d'avoir le temps de penser à plein de choses. C'est souvent c'est bien exprimé aussi, du moins à travers le livre. Et toi, David, quelle bande son tu choisirais de mettre dans ta bande originale si tu devais faire un road trip, un morceau, le premier comme ça, sans réfléchir, qui deviendrait ?
Eh ben, sans hésiter, ça serait un extrait d'un morceau du groupe The Band, The Wait, qui est aussi d'ailleurs dans la bande originale d'Easy Rider, un tempo super cool, un groupe d'époque. Avec la particularité, c'est que tout le monde chante dans le groupe, chacun un couplet, les musiciens et tout, et c'est vraiment un état d'esprit et c'est pour moi le meilleur morceau qui peut illustrer un run en moto à travers des paysages splendides.
Bon, d'accord, ce serait ce moment-là du film en plus. Tu nous
Exactement.
Donnes le moment du film et... Ok, super. Et écoute, je te propose qu'on écoute le morceau tous ensemble pour nous faire voyager. Merci David d'avoir partagé ce morceau avec nous et de nous avoir fait voyager dans les grands espaces pendant les 2-3 minutes qu'ont duré ce morceau et puis qui marque bien l'époque encore une fois. Je suis tombée sur une étude intéressante de Simon Normand sur les paradoxes dans les road movies. En fait, il explique que chaque fois les personnages veulent fuir les villes pour accéder à des paysages sauvages. Et que malgré tout, l'accès à ces paysages, ça se fait à travers des symboles de modernité comme la voiture. La voiture qui est vraiment représentée, si on reste sur le continent nord-américain, par des grandes réussites comme Henry Ford ou des choses comme ça. Et c'est vraiment ce côté capitaliste que cherchent à fuir chaque fois les personnages des road movies. Et puis c'est aussi grâce à des infrastructures lourdes comme les constructions des routes et des motorways, comme on dit, qui peuvent réaliser leurs rêves à travers ces voyages-là. Je voulais voir quel était ton point de vue là-dessus, parce que je sais que tu es passionné aussi à des espaces et de tout ce qui roule et... Alors, moteur, donc voilà.
Il y a un petit bémol quand même, c'est vrai que c'est incontournable, hein, les moyens de transport d'aujourd'hui. Ça reste des hommes modernes qui découvrent des régions et des paysages différents. Mais malgré tout, dans chaque road movie, on a toujours une petite variante, c'est-à-dire que certes, c'est des véhicules. Dans Easy Rider, Peter Fonda utilise une moto, mais ce qui n'est pas une moto normale, rallongée, customisée, décorée. Dans Thelma & Louise, c'est une Ford Thunderbird cabriolet avec une peinture métallisée. On sort quand même du cliché de la voiture familiale, travail, outil. Ça reste quand même, malgré même un véhicule, mais de loisir, de fun, de plaisir et d'esthétisme.
Oui, c'est vrai, c'est une bonne interprétation. Voilà, c'est vraiment plus pour partir que, comme tu l'interprètes, ouais, la notion du confort pour le confort d'une voiture. C'est vraiment le fait de pouvoir se déplacer qui est important plus que la
et
voiture.
Et un choix esthétique.
Oui, ouais, c'est ça.
Pour rester dans l'univers du voyage.
Exactement. Et ben, écoute, c'est bien aussi d'avoir cité Thelma & Louise parce que moi, j'avais pensé. Par rapport à cette étude qui nous fait bien prendre conscience que la route, elle est essentielle pour le voyage, enfin sur le continent du moins, parce qu'après on sait qu'avec les avions, les bateaux, c'est possible, mais c'est pas la dimension là qui nous intéresse. Et justement, dans Thelma & Louise, je sais pas si vous vous souvenez la scène finale, mais voilà, c'est Dean Davis et Suzanne Sarandon, elles décident donc qu'elles ont tout abandonné pour partir toutes les deux, et puis la police est à leur trousse, et face à elle, il n'y a plus de route. Et c'est vraiment symbolique, puisque finalement, le fait qu'il n'y ait plus de route, là, et pour elle, c'est la fin du voyage, et on connaît tous l'issue du film. David, merci d'avoir partagé cette émission avec nous. Est-ce que tu as des choses à rajouter
Non, j'ai participé aussi à ces beaux voyages, et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs personnels, de voyages aussi, et puis des images de ce film qui reviennent à chaque fois qu'on parle de bande-son, de bande originale de road trip, les images nous reviennent très vite. Et c'est vrai que pour Thelma & Louise, la fin de la route, c'est la fin du voyage.
C'est ça, exactement. Et puis juste peut-être un dernier petit clin d'œil, c'est que là, on vous a emmené de l'autre côté de l'océan, comme on dit, mais il y a vraiment des jolis road trips à faire chez nous, en France, partout en Europe, loin des autoroutes. Donc n'hésitez pas à vous faire votre bande-son, à prendre la route et puis à sortir un peu des sentiers battus. Et à très bientôt dans une nouvelle émission. Et merci David, au revoir.
Merci Alex.
Against us. I repeat, turn your engine off and place your hands in plain view.
What are you doing?
I'm not giving up.
Max, you gotta do something. How many times, Max? How many times did we get me fucked over?
Hey, listen. Will you pull yourself together now and listen to me? You calm down. Don't make me sorry I brought you.
Damn it!
I repeat, cut your engine off and place your hands in plain view.
Okay, then, listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go! You sure? Yeah. Hit it.
Hey! friand d'art. L'émission culturelle d'Alto.
Alors moi, il m'épate.